Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Renaud Girard et Jean-Louis Burgas. C'est avec vous que je voulais commencer, figurez-vous, cette émission.
Ça me fait plaisir pour une
Mais
fois.
Oui, ben bien sûr, parce que le Stade de France, c'est un sujet qui vous intéresse.
Oui, pourquoi ?
Il n'y a que les Anglais qui ont témoigné.
Il y a que les Anglais qui ont témoigné.
Les Espagnols, ils disent rien.
Les Espagnols n'ont pas dit grand-chose, effectivement.
Ils disent rien. Vous voulez les écouter ?
Ça y est, vous avez trouvé un Espagnol.
Ah, pas d'Espagnol, ils ont été entendus. Figurez-vous, devant le Sénat, ils ont parlé de la journée effroyable. Donc je vous propose d'écouter ce témoignage pour que vous compreniez que les Espagnols ont subi également les affres de ce qui se passait au Stade de France.
Enfin, pas...
C'est vrai que les voyous, avec une certaine technique pour voler les billets, c'est-à-dire ils prenaient les billets quand on était dans les tourniquets, ils les prenaient et ils sortaient en courant. Et s'ils se faisaient prendre par quelqu'un, ils avaient une technique incroyable, c'est-à-dire qu'ils rendaient un faux billet. Ils prenaient le faux billet et ils rendaient un faux billet qu'ils avaient dans une autre poche. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de Madrilènes qui n'ont pas pu entrer, parce que en échangeant les billets, c'est vrai que les voyous ont pris les bons et ils ont laissé à nos supporters les faux billets. Et c'est pour ça, mais j'ai vu une dizaine d'incidents comme ça.
Je vous en passe que 20 secondes. Son témoignage, il parle très bien français d'ailleurs. Hein. Son témoignage, si vous intéresse, vous pouvez le retrouver. C'était spécialement pour vous, petite dédicace, parce que vous m'avez expliqué.
Je vais l'écouter en boucle, mais voilà, vous me laissez redire un mot. C'est que je suis, mais c'est quelque chose d'irrationnel, mais c'est vrai, c'est un peu, mais je n'aime pas que les Anglais nous donnent des leçons de service d'ordre.
Voilà, oui, mais enfin, quand ils ont raison, c'est encore pire.
Je vous confirme que c'est irrationnel.
Quand
parce que ce qui
raison,
est intéressant, c'est les faits, la vérité,
oui. Oui,
cher...
patriote de temps en temps.
Bon. Ah oui, donc...
Alors...
Oui, on n'a pas été brillant.
Bon, petite également information qui m'a amusé. La députée insoumise Rachel Keke reconnaît avoir partagé des messages de soutien sur les réseaux sociaux avec Marine Le Pen ou encore au régime de Bachar el-Assad. Je me dis, mais si... C'était une députée du Rassemblement national qui avait avoué cela, ou on avait retrouvé cela. Mais vous imaginez le tollé que ce serait. Mais bon, comme cette jeune femme appartient à la France insoumise qu'elle est... voilà, il y a une protection, peut-être, quand on y représente la France insoumise. Donc, depuis quelques jours, elle est attaquée sur les réseaux sociaux en raison de ses anciennes prises de position et pour cause. Elle est accusée d'homophobie, de racisme à l'encontre de la communauté maghrébine. Elle admet avoir fait des publications qui ne reflètent absolument pas qui je suis et ce que je défends aujourd'hui dans mon combat politique. Elle a fait un communiqué. Son ancienne concurrente aux législatives, Roxana Maracineanu, ne croit pas donc au message de la députée. Et Roxana Maracineanu a tweeté aujourd'hui, elle a partagé des publications racistes et homophobes. Je rappelle que c'est un délit, mais elle nous assure avoir changé. Tout va bien, ses électeurs jugeront.
Ouais, mais malgré tout, excusez-moi, moi d'abord j'avais trouvé que le fait qu'elle ait été... À une époque, elle partageait les postes de Marine Le Pen, témoignait au moins d'une certaine indépendance d'esprit, parce que ça ne se porte pas forcément bien, et à ma connaissance, ce n'est pas encore un crime.
Non, je suis d'accord, mais écrire « Le monde entier doit soutenir Bachar contre ses prédateurs criminels qui sont les États-Unis, la France et l'Angleterre », voilà ce qu'écrit Mme Keke. Donc, vous imaginez si elle n'était pas députée de la France insoumise, le tollé que ça pourrait faire.
Et justement, bon, parce que moi, ça ne me choque pas que des êtres évoluent. Hein.
Voilà.
Il y a aucun problème.
Elle a repartagé plus exactement. Elle l'a pas écrit. Elle a repartagé. Soyons précis.
Mais
elle
ils auraient la même indulgence pour les évolutions de l'autre camp. Ce serait bien aussi. Hein.
Et une chose, à une époque, il y avait des partis qui faisaient arriver de nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. Je trouve que je ne suis pas un fan de la France insoumise. Je dis simplement qu'ils ont fait arriver quelques nouvelles têtes, quelques nouveaux personnages qui font du bien à la démocratie.
Et le RN aussi.
Le RN aussi, peut-être. Mais apparemment, les nouvelles têtes...
Madame Riquet fait du bien à la
démocratie. Les nouvelles têtes de... Oui,
Peut-être. Ils ont une femme de ménage au RN peut-être. Qui n'a
maintenant,
pas autant
de... Je vous signale que du temps du Parti communiste, à l'époque où le Parti communiste était le premier parti de France, il y avait de nouveaux visages qui étaient aussi des ouvriers, des, je ne sais pas s'il y avait des femmes de ménage, mais des gens qui venaient d'autres univers que de la bourgeoisie.
C'est bon. Mais là, vous avez raison, il faut qu'effectivement toutes les composantes sociologiques ou sociales soient représentées. Bon, ouais. La politique avec Elisabeth Borne, c'est très intéressant ce qui se passe sur le au gouvernement, puisqu'on a l'impression qu'on a voté dimanche, mais en fait...
Et vous avez voté pour un projet clair, Pascal ?
Tout va bien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé après dimanche? Vous avez vu combien il y a de députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale autour du rassemblement d'Emmanuel Macron?
Oui.
Bon, c'est, franchement, je ne comprends pas comment on arrive à faire une sorte de vaste débat en prononçant des mots comme l'échec d'Emmanuel Macron. Des choses comme ça. C'est aujourd'hui le chef d'État européen le mieux élu.
Bon, alors je vous propose d'écouter Elisabeth Borne d'abord. Je suis confiante et après on donne la parole à Elisabeth Lévy.
Vous le voyez, on est dans une situation inédite où le président de la République a pu échanger avec les forces politiques pour entendre finalement jusqu'où les uns et les autres sont prêts à s'engager pour avoir une majorité pour agir au service des Français. Nous attendons... Voilà une explicitation de ce qu'ils sont prêts à faire d'ici demain, comme le président de la République l'a évoqué. Et puis pour ma part, je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale. Moi, je suis confiante. Je pense que dans notre pays, les forces politiques, les députés, même s'ils ne font pas partie de la majorité présidentielle, souhaitent que notre pays puisse continuer à avancer.
Elisabeth Lévy.
Alors déjà, continuer à avancer, ça c'est le bougisme, on ne sait pas avancer vers quoi et c'est bien tout le problème. Mais je voudrais répondre à Jean-Louis parce qu'on m'a burgatisé il y a quelques jours en me disant « Burga sort de ce corps ». Mais je ne pense pas que c'est une gifle dans le sens où ça reste le premier parti à l'Assemblée. En revanche, deux choses. D'abord, il n'a pas été le mieux élu parce qu'il a été élu par un grand nombre d'électeurs qui voulaient simplement faire barrage. Et ça, il semble l'avoir oublié.
Ça, c'est votre interprétation.
Il n'a pas été non plus...
C'est
pardon,
votre interprétation.
Il n'a pas... C'est l'interprétation de tous les sondeurs et de toutes les enquêtes. Il n'a pas non plus été élu sur un projet clair parce qu'on ne sait toujours pas quel est son projet, contrairement à ce qu'il a dit hier soir. Et surtout... Il a demandé lui-même sur le tarmac de l'aéroport, je l'entends encore dire, donnez-moi une majorité claire. Il ne l'a pas eu, c'est un échec. C'est quand même un échec,
c'est
je ne dirais pas
Gilles. Renaud Girard.
C'est un échec, mais ce n'est pas un séisme.
Voilà. Oui,
la presse a pu le dire. Pourquoi ce n'est pas un séisme? Parce qu'en fait, dans la Ve République, premièrement, le Premier ministre n'est pas obligé de faire adopter son gouvernement, d'avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale et n'est pas obligé de faire une déclaration
vous
politique.
Financez...
Je ne finance pas.
Mais si,
Pascal, vous financez... je ne finance pas. Nous avons la même situation en Allemagne. En Allemagne,
mais je me fiche. Mais en Allemagne, Espagne. Ils ont une culture qui est différente. Vous financez. Mais peu importe, la culture italienne, la culture allemande, c'est pas... En Allemagne, il n'y a jamais un parti qui est majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, qu'il s'allie à un autre parti pour avoir la majorité. C'est leur histoire. Ça a toujours été comme ça. Bon, en France, effectivement...
C'est la première fois qu'un président n'a pas la majorité.
Parce qu'il n'y a plus
absolue.
De bipartisme.
Mais d'ailleurs...
Il n'y a plus l'effet d'entraînement qu'il y avait eu en 2017, mais c'est vrai.
Et vous financez dans ce sens qu'il y a un message qui a été envoyé dimanche et que vous le vouliez ou non, les gens ont le sentiment que ce message n'est pas entendu. Donc, nouvelle fois, c'est comme en 2005 avec le référendum, vous financez et vous mettez en place des gens qui n'iront plus voter ou ne croiront plus à la politique parce qu'ils veulent que lorsque ça s'est exprimé dans les urnes, il y ait une traduction sur le terrain politique.
Mais quelle serait la traduction? Pascal, quelle traduction?
Il doit changer le gouvernement, tout simplement.
Non, mais pardon, parce que
les
électeurs n'ont pas non plus envoyé un message clair. Et vous oubliez une composante à chaque fois, c'est que...
Si, le message clair, c'est que la France penche à droite.
Et le Front
c'est quand même très clair. Pardonnez-moi de le dire.
Le Front républicain est en miettes à cause d'un anti-macronisme.
J'essayais de vous dire...
Et vous avez un gouvernement de gauche dans une France qui penche à droite.
C'est que quelque chose a changé.
C'est tout.
Quelque chose a changé. Il n'y a plus deux grands partis. Et ça, donc, on peut...
Oui, mais c'est des années qu'il n'y a plus deux grands partis. Je vous dis fondamentalement, vous envoyez un message le dimanche. C'est quoi le message dimanche? La France penche à droite.
Vous êtes président de la République. Si vous maintenez Borne, vous n'entendez pas ce message. T'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre
d'abord,
ça.
D'abord, vous êtes en train de et je suis stupéfait tout de même de. Alors, je suis un peu isolé dans mon raisonnement. Je suis stupéfait de la violence avec laquelle toute la presse, toute la presse a mis le mot échec derrière ce qui s'est passé. Dimanche soir, ça n'est pas. Il s'est passé deux choses ces dernières semaines. Il y a eu une élection présidentielle avec un président. C'est pas le président de la France Insoumise qui a été élu. C'est pas celui de Marine Le Pen.
Ne répondez pas à ce que je vous dis là. La France, est-ce qu'elle penche à droite, oui ou non?
Derrière, il y a eu.
Est-ce que la France penche à droite, oui ou non?
Oui, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau.
Alors, et vous avez un premier ministre Macron. Et vous avez un premier ministre qui est de gauche. Et
ça vous. D'abord, attendez.
Jeanne Cancar. J'attends. Bon, attends, Jeanne Cancar.
Vous voulez que je vous réponde ou vous passez la parole à Jeanne Cancar?
Bon, d'accord. Jeanne Cancar est là. Jeanne Cancar?
Ils avaient volé une porte du Bataclan ornée d'une peinture de Banksy en hommage aux victimes des attentats. Les 8 hommes ont été condamnés à Paris aujourd'hui à des peines allant de 6 mois avec sursis à 2 ans de prison ferme. Des condamnations bien en deçà des réquisitions du ministère public. Après Starbucks, Ikea ou encore McDonald's, Nike quitte définitivement le marché russe. L'équipementier sportif américain a annoncé ne pas avoir l'intention de rouvrir ses magasins, fermés d'abord temporairement dans la foulée des sanctions contre Moscou pour son offensive en Ukraine. Zinedine Zidane a 50 ans aujourd'hui et pour l'occasion, l'ancien joueur s'est livré dans un entretien accordé au journal L'Équipe. Il confirme son souhait d'être sélectionneur de l'équipe de France, la plus belle chose qui soit selon lui. Le champion du monde de 98 devra cependant attendre la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Le contrat de l'actuel sélectionneur Didier Deschamps court jusqu'à fin 2022 et une prolongation reste possible.
Je n'ai pas souvenir d'ailleurs d'une personnalité dont on a célébré l'anniversaire comme celui de
comme
Zidane
ça
aujourd'hui. Et ça en dit beaucoup d'ailleurs sur notre société parce que c'est plutôt bien d'ailleurs parce que tout le monde adore Zidane.
Bon, Olivia Grégoire, pas d'ultimatum parce qu'Olivia Grégoire est donc la porte-parole du gouvernement. Hier, certains ont imaginé qu'il y avait une forme d'ultimatum lancé par le président de la République au parti d'opposition. Elle dit pas du tout. On avait mal compris.
Oui, c'était plutôt une défausse.
Ouais. Il n'y a ni ultimatum ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé, ses mots sont précis, à son retour du Conseil européen, dont on parlera peut-être.
C'est 48 heures demain.
À son retour du Conseil européen, effectivement dans 48 heures demain soir, nous commencerons à bâtir, c'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum. Un ultimatum, c'est la fin. Là, il ouvre le début.
Personne n'a vraiment envie de travailler avec Emmanuel Macron, si j'ai bien compris.
Vous êtes dans une analyse très curieuse, qui correspond effectivement à l'analyse d'un certain nombre de vos confrères. Moi, ce que je vois, c'est une élection présidentielle dans laquelle les Français disent « Oui, Monsieur Macron, ok, on vous veut président de la République, on veut pas Monsieur Mélenchon, on veut pas Marine Le Pen, on vous veut ». Mais derrière, attendez, attention, Monsieur Macron, il y a des choses que vous n'avez pas comprises. On veut, on est un peu plus à droite, il y a des choses qui ont été soulevées, je l'ai déjà dit ici, par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, qui nous intéressent. Et derrière, il y a des élections législatives, et on va vous le dire, mais on sait que ces élections législatives ne vont pas vous mettre dehors. Or, vous mettez M. Macron dehors.
Ah, pas du tout. Je vous dis que quand vous avez un gouvernement avec Pap Ndiaye et Elisabeth Borne, il ne me semble pas que c'est le signal envoyé par les Français.
Oui, vous avez raison, mais...
C'est tout ce que je vous dis, ni plus ni moins.
Il va peut-être passer des choses.
Moi, j'aimerais contrer votre analyse sur un point. C'est que vous dites que la France est à droite, ce qui d'ailleurs me ravirait. Oui, alors le problème, c'est que les électeurs du Rassemblement national, et d'ailleurs beaucoup de Français, je crois que c'est Fourquet qui explique très bien ça, sont en réalité très partagés. Ils sont à droite sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, etc. Mais en même temps, sur les questions, ils veulent des acquis sociaux, ils veulent leur retraite à 60 ans. Marine Le Pen avait eu cette phrase, je ne pourrais pas faire élire un député qui veut la retraite à 64 ans. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire comme ça, la France est à droite.
Vous avez raison.
L'union de la gauche a fait moins gauche, d'un tiers. Non, mais il y a eu quand même un parti, NUPES, c'est l'union de toutes les gauches quand même. Ce parti, il faut le répéter ici, a fait moins d'un tiers des voix des Français.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Elle n'est pas à gauche.
Alors, Marine Le Pen, on va l'écouter après. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, on va essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Et on a une large partie consacrée à Bernard-Henri Lévy et à Michel Onfray qui ont proposé des analyses sur la société française.
Pardon.
Ah. Non, mais c'est bien.
Spoiler.
C'est bien envoyé, c'est bien. C'est bien.
Divulgateur.
C'est un bon, alors, teaser. C'est
bon,
un teaser.
Bah, écoutez Marine Le Pen, en tout cas, où elle résume peut-être ce que quelques-uns pensent, en tout cas. Emmanuel Macron n'a rien compris.
Il n'y avait pas grand-chose dans ce discours. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est qu'Emmanuel Macron entend, semble-t-il, à la différence de son ministre des Relations avec le Parlement, M. Véran, considérer que toutes les forces politiques méritent d'être respectées. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de devoir faire un premier pas, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité de faire le premier pas pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs. Bon, voilà, je pense que le fonctionnement de l'Assemblée nationale l'obligera à comprendre cette réalité.
Bon. Mais il a dit quelque chose dans le discours, contrairement à ce qu'on prétend, mais je crois qu'il a voulu reprendre la main, mais en réalité, ce sont les groupes qui vont l'avoir. Parce que pour qu'il y ait cette collaboration qu'il souhaite au coup par coup, il faudra qu'il offre des projets acceptables, je pense aux Républicains par exemple, ou des projets qui auront le droit d'être révisés. Ce qui me frappe, c'est que dans le discours, il a l'air de vouloir ce qui lui a été imposé. C'est du grand art, c'est-à-dire tout ce qu'il décrit comme une politique de compromis, de négociation, de concertation. On se demande pourquoi il n'a pas fait auparavant. Il me semble.
Non, mais c'est une bonne question.
BHL.
C'est une bonne question.
BHL ce
juste
matin.
Un petit mot sur Marine Le Pen et, oui, sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Marine Le Pen, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, elle s'installe dans une opposition, je dirais, constructive. Oui. Elle a enfin, contrairement à son père, des propos modérés sur le fonctionnement de la démocratie, le fonctionnement du Parlement, le fonctionnement, si contrairement à M. Mélenchon, oui, qu'on a fait d'ailleurs passer comme premier opposant hier soir, en le passant immédiatement sur toutes les chaînes de télé derrière le discours du président de la République, alors qu'il ne représente plus rien, plus personne, il n'est plus député, il est, voilà. Marine Le Pen, à mon sens,
j'ai du mal à suivre Jean-Louis Burgat, mais son itinéraire politique.
Je ne vous donne pas des opinions politiques, je vous donne des analyses. Voilà.
Mais je pense que Macron, il a une piqûre de rappel. Nous avons commenté cette scène absolument abracadabrante. On le voit parler, s'adresser à la nation française devant un avion dont les réacteurs couvrent pratiquement sa voix. Voilà. Il a eu une sorte de dépression post-victoire, cet Emmanuel Macron. Mais là, il a effectivement subi une défaite aux législatives, c'est vrai. Okay. Pas une défaite dramatique, mais une défaite aux législatives. Et j'ai l'impression que ça l'a réveillé. Non.
Bah moi, Pascal, je trouve pas, alors.
J'ai l'impression.
Mais c'est possible, mais on peut tous avoir des impressions. Bernard-Henri Lévy, moi, ça m'intéresse ce qu'il a dit.
Et que la difficulté ne lui fait pas peur, à Macron, voilà.
Ouais. On va voir. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre des philosophes, des essayistes, des intellectuels parler du climat d'aujourd'hui. Alors, deux, a priori, très opposés que je vous propose ce soir, BHL et Michel Onfray. BHL d'abord, la France-France.
Ah oui, c'est un signal clair et surtout très inquiétant. Oui, ce sont les deux visages de la France rance, de la France qui n'aime pas la France, qui ne s'aime pas elle-même, qui tourne le dos à ce qu'elle a de grand. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, il y a 10-20 ans, voir un jour ça. C'est-à-dire ces deux blocs extrêmes et qui sont à bien des égards jumeaux.
Je peux être un peu démago. Il n'imagine pas parce que effectivement, je ne suis pas sûre que Bernard-Henri Lévy puisse envisager, si vous voulez, que toutes ces choses qu'il aime, le multiculturalisme, l'ouverture à tout vent, les grands esprits, etc. Il n'imagine pas que quand on vit dans un certain nombre de quartiers, on ne voit pas les choses comme lui. Et je dois dire que je suis assez frappée par le fait que ce propos, vous savez, Bernard-Henri Lévy a écrit un livre qui est tout à fait contestable et qui a même été très nocif, qui s'appelle « L'idéologie française », dans lequel il expliquait que la France était éternellement fasciste, si vous voulez. Et en réalité, il poursuit. Ça a été un livre d'ailleurs très contesté par les intellectuels eux-mêmes. Hein.
Non, mais l'idéologie française, c'est un livre marquant de BHL.
Un livre faux de bout en bout, à mon avis.
Dire que la France a été de tout le temps fasciste, je pense qu'il contesterait cette lecture.
C'est ce que on n'en était vraiment pas loin. Je vous assure qu'il y avait un vieux fond qui courait tout le temps. Et,
mais convenez que régulièrement, on a dans ce pays, vous appelez ça une mauvaise France ou une France curieuse, régulièrement arrive une partie de la France en 40, pourquoi pas, on le voit durant la Commune, il y a une partie de la France régulièrement qui est étrange, qui est violente, la terreur, la période de la terreur sur la Révolution, c'est ça.
Il ne les mettait pas sur... Lui, vraiment parler de ce qu'il appelle le fascisme...
Et que tous les pays n'ont pas cette...
Vous avez raison.
Les États-Unis n'ont pas ça. L'Allemagne
vous avez raison, je ne veux pas être trop longue. Ce que je veux juste dire, c'est que, à mon sens, avec ce livre, et je le lui ai souvent dit, parce que par ailleurs, j'ai moi pas du tout de détestation pour Bernard-Henri Lévy, je lui ai dit, c'est lui qui n'aime pas la France. Parce que pour aimer la France, il faut quand même aussi aimer un peu les Français, de temps en temps.
Mais on va marquer une pause, mais il me semble que dans ce qu'il dit, et c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'on pourrait lui dire... Il y a presque un peu un mépris de classe.
Oui,
ah bah c'est clair.
C'est ce que j'essayais de dire. En fait.
Mais c'est peut-être ça qu'on perçoit. Vous voyez, il y a quelque chose. Au fond, vous n'êtes pas assez intelligent.
Pour... Et ouvert. On peut tout dire de LFI et du Rassemblement national, mais les qualifier de groupes qui n'aiment pas la France et de rance, c'est une stigmatisation honteuse, comme si lui-même... était capable de donner le quitus ou l'évaluation de qui est français honorable ou non. Ça me scandalise de la part d'un homme intelligent qui a énormément de talent par oral et par écrit. Hein.
C'est la définition de rance, hein, qui a pris, qui a pris une odeur forte et un goût âcre.
Il aime bien cet adjectif, il l'a déjà utilisé.
On n'est pas loin de nauséabond, je vous signale.
Il a pris une odeur forte.
C'est la gauche olfactive.
Et un goût âcre. Nous allons marquer une pause et nous parlerons de nouveau de Bernard-Henri Lévy et de Michel Onfray. C'est très intéressant également ce qu'a dit Michel Onfray. À tout de suite. Jeanne Cancard, il est 20h30.
Les 27 viennent d'approuver à l'instant la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, une étape hautement symbolique près de 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe qui continue de progresser dans l'est du pays. L'inquiétude aux États-Unis après que la Cour suprême a validé aujourd'hui une loi de l'État de New York sur le port d'armes, consacrant ainsi le droit des Américains à sortir armés de leur domicile, une décision qui intervient alors que le pays est encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrières. Ce sont des images impressionnantes, celles de la nageuse américaine Anita Alvarez qui a perdu connaissance hier dans l'eau après sa performance aux Mondiaux en finale de la natation synchronisée à Budapest. Elle a coulé jusqu'au fond du bassin. C'est son entraîneuse qui est venue la secourir. La jeune femme est aujourd'hui hors de danger.
Absolument extraordinaire hein, cette histoire. Ouais. C'est la coach qui a plongé parce que les secouristes n'intervenaient pas et ça se joue à quelques secondes. Si on a le temps tout à l'heure, on verra le sujet. C'est tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas d'image, quoi. Il n'y a pas de vidéo. Il y a des photos. Et vous les avez vus. Mais cette histoire est absolument sidérante. Donc BHL, deuxième passage sur le RN et LFI.
C'est la même haine de la liberté, c'est la même méfiance vis-à-vis de la démocratie, c'est par exemple la même admiration pour Poutine, c'est la même soumission devant, même si les uns s'appellent les insoumis, devant les tyrannies d'aujourd'hui, c'est la même fermeture sur soi. Oui, il y a quelque chose de très semblable.
C'est étonnant parce que ce qu'il dit n'est pas juste. On pense qu'on veut du Rassemblement national, mais ils ne sont pas ennemis de la liberté. On peut dire pourquoi pas qu'ils sont refermés sur eux-mêmes, pourquoi pas, qu'ils ne sont pas ouverts sur le monde et qu'ils ont plutôt...
passé de temps en temps qui a pu surprendre sur ce thème-là.
Mais non, c'est comme si je vous
le cas aujourd'hui, c'est plus le cas aujourd'hui.
Ça n'a pas de sens. Vous étiez, vous-même aviez une carte au Parti communiste. C'est comme si je vous reprochais les crimes de Staline. Ça n'a pas de sens, enfin.
C'est évident.
Si c'est évident, ne le dites pas alors.
Vous en parlez.
Mais quand on parle des communistes, on parle pas.
Moi, je me pose des questions, effectivement. Mais
Jean-Louis,
et qu'on avait cette sorte de non-vision et qu'il y avait
Jean-Louis, je ne regarde pas les communistes. Je ne regarde pas les communistes.
Vous posez des questions.
Je ne regarde pas les communistes en 2022 à l'aune de Staline. Ça n'aurait pas de sens.
Ah, si, ça peut avoir du sens. On peut se poser des questions.
Mais les communistes, paradoxalement, n'ont jamais été qualifiés d'anti-républicains, alors qu'on continue à l'égard des députés du Rassemblement national qui ont été élus. J'entends une femme que j'aime beaucoup, Valérie Rabault. Elle dit encore ce matin que les 89 députés du Rassemblement national n'ont pas le cap républicain.
Ouais, bon, reconnaissez que ça change.
Il y a deux choses. Il y a un intellectuel, c'est Bernard-Henri Lévy, qui s'exprime, et on peut lui savoir gré de dire ce qu'il pense et de critiquer ses partis. Très bien, il peut tout à fait le faire. Ce qui est moins admissible, c'est quand il utilise le mot « rance », parce que là, c'est très désagréable. Et lui-même fait l'apologie, la raison de la démocratie, d'une démocratie sereine. Il critique, par exemple, et a raison, Poutine, quand Poutine emploie des expressions ordurières ou très violentes. Et là, il utilise contre 50% de Français, pratiquement, si on prend le vote entre 31% de la France insoumise et 20%, enfin, la moitié des Français, grosso modo, il les traite de rance. Là, c'est...
Parlons de Michel Onfray. Voilà. Parlons de Michel Onfray, autre intellectuel, autre vision, sans doute, de ce qui s'est passé ces derniers jours. Voici ce qu'il pense d'Emmanuel Macron.
Je suis très étonné, enfin étonné c'est une façon de parler, parce que je sais qu'il est comme ça depuis le début, par l'aspect psychorigide du personnage. C'est-à-dire qu'il a déjà, pendant 5 ans, perdu toutes les élections, le premier mandat, et il n'a rien fait. À chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Tous ces gens-là ne disent que du bien du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il perdait une élection, soit il démissionnait, soit il changeait de premier ministre, soit il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les possibilités offertes par la Constitution. Tous ces gens-là, depuis Mitterrand, la cohabitation, depuis Chirac, disent, depuis le référendum de 2005, je perds l'élection, je reste. Et je perds toutes les élections, je reste à chaque fois.
Est-ce que vous allez passer un autre passage ou pas? Bon, alors, je me tais parce que c'est celui sur l'Europe que je voudrais commenter.
Comme tous les grands polémistes, Michel Onfray force le trait. Moi, je l'adore. Mais même là, j'ai des réticences pour aller jusqu'au bout de son raisonnement. Mais quel talent!
Pardonnez-moi, ce qu'il dit n'est pas juste. Il a perdu toutes les élections. Il a gagné la présidentielle.
C'est plus que forcer le trait.
En fait, si vous acceptez, c'est une non-victoire plus qu'une défaite, puisqu'il n'y a pas de parti vainqueur. Et quand il dit qu'il faut nommer Marine Le Pen...
Non, mais c'est ce qu'on pouvait résumer hier. Qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron? Je n'ai pas gagné les élections, mais vous ne les avez pas gagnées non plus. Je n'ai pas gagné les élections, mais je les ai quand même un peu plus gagnées que vous. C'est ça,
oui,
ce qu'il dit. Ce qui, objectivement... Oui, non mais c'est ce qu'il dit, lui. Moi, je ne dis pas ça, c'est ce qu'il dit, lui. Donc,
il est nostalgique d'une époque où, effectivement, le général de Gaulle, dans son référendum, avait 47% des électeurs, mais c'est énorme, sur une participation de plus de 80%. Donc, c'est des scores que personne n'atteint aujourd'hui. En Europe, il est parti là-dessus, alors qu'il avait, en fait, ce général de Gaulle, un très grand soutien populaire, puisqu'il a été, en fait, viré par la droite et l'extrême droite.
Laissons de Gaulle où il est. Ce qui nous intéresse, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Premier ministre, Michel Onfray.
Mais la Ve République n'aurait pas permis que le chef de l'État puisse avoir un défaut de majorité, parce qu'il aurait fallu, soit pour rester gaulliste, que Macron démissionne lui-même, remette en jeu son mandat, soit qu'il change complètement le chef de l'État, le chef du gouvernement, en disant, bon ben voilà, Madame Borne me présente cette démission, et bien sûr, je l'accepte, et je fais un gouvernement qui est en relation avec ce que le peuple me fait savoir avec les urnes. Donc je nomme Marine Le Pen Premier ministre. Ça me paraît évident.
En le disant, vous savez que c'est impossible.
Mais bien sûr que c'est possible. Ce sont ce que les institutions exige. Ce que les institutions demandent, ça veut dire que si c'est impossible, si vous me dites que c'est impossible, ça veut dire qu'on a avalisé le fait que nous n'étions plus en démocratie. Si effectivement, parce qu'elle est avant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, donc...
Mais il délire, le premier groupe à l'Assemblée, c'est le parti du président dont j'oublie le nom, donc... Renaissance. Merci.
C'est étrange de dire. La virtuosité de Michel Onfray.
Mais c'est pas virtuose, ça. Si, c'est pour le coup.
Il faut,
C'est faux.
C'est un virtuose de l'utilisation de l'histoire, de tout un tas de choses pour vous amener à vous dire aujourd'hui vous vous trompez parce que il y a voilà.
Enfin, moi je veux dire que ce soit un virtuose, mais on a tous réagi de la même manière. Mais ça n'a pas de sens de nommer Marine Le Pen. C'est pas elle qui a fait le plus de voix. C'est assez étrange d'ailleurs son raisonnement.
Mais il justifie ça avec le général de Gaulle, avec Michel Debré, etc.
Oui. Ah ben, ça, il est...
Et dernier passage, c'est sur l'Europe et c'est Bruxelles. Écoutez, Bruxelles décide.
Je dis, mais comment en est-on arrivé là? Et je reviens effectivement toujours aux fondamentaux, ce que les gens appellent un logiciel bloqué. Mais je dis, mais expliquez-moi comment on peut faire de la politique en France quand tout ça est décidé à Bruxelles, c'est tout. C'est-à-dire quand nos caisses sont proprement vidées parce que nous sommes un pays contributeur, que nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous n'en récupérons, quand on n'a pas d'argent et qu'on donne le peu d'argent qu'on a à d'autres pays, et que ces autres pays, par exemple, quand il s'agit de la Pologne, quand il s'agit d'acheter des avions, ils les achètent aux États-Unis. Je veux dire, on fait une politique qui est très en faveur de l'Allemagne, et quand l'Allemagne se réarme à la faveur du conflit en Ukraine, elle achète des avions à qui ? Aux Américains, sûrement pas à l'Europe, elle aurait dû acheter des avions Rafale aux Français. Mm-hmm. Je me dis, mais je préfère que mon logiciel soit bloqué, parce qu'il est clair, je suis bloqué sur un logiciel qui est efficace pour comprendre ces choses-là.
Ceci dit, c'est complètement faux quand même, c'est complètement... Il a dit quelque chose de complètement faux, il faut le dire, sur un plateau de télévision, il a dit que notre dette était due à notre contribution à l'Union européenne. C'est complètement faux. Bien sûr qu'on contribue sur la TVA à l'Union européenne, on reçoit beaucoup de choses aussi, mais ce n'est pas du tout ça qui fait notre dette. Notre dette est due au fait que nous ne voulons pas financer par les impôts un État papa, un État nounou, un État d'assistanat. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas du tout dû à l'Europe. C'est faux. Voilà.
Là, par contre, il y a une part de... En revanche,
il dit la
pourquoi elle dit, par contre ? Donc, en revanche, il y a une part de vérité qui est que l'Union européenne est l'instrument de la dépolitisation, puisqu'au nom de l'Union européenne, on nous dit il n'y a pas de choix politique, vous n'avez pas de choix politique, et sur des questions comme l'immigration, on nous le dit en permanence, et que on sait très bien que dans le fond, c'est ça la technocratie, ce que nous appelons la technocratie, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, un problème a une seule solution, d'accord, qu'il n'y a absolument aucune délibération démocratique qui tienne, et vous l'avez cité tout à l'heure, Pascal, le référendum. Marcel Gauchet dit souvent ça, il dit que c'est fondateur pour les Français, pour la défiance des Français. Le référendum de 2005.
Onfray ne parle que de ça.
Oui, là-dessus, il a raison.
C'est vrai que ça a été...
Mais la Hongrie a fait la politique migratoire qu'elle a voulu.
Bien sûr.
Et elle est toujours membre de l'Union européenne. Et l'Angleterre pouvait tout à fait... faire la politique migratoire qu'elle voulait. Et la France peut très bien faire la politique migratoire qu'elle veut. Elle devrait d'ailleurs arrêter ce flux insensé de clandestins en France. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique à Paris. C'est faux de dire que l'Europe empêche
La CEDH, qui est le Conseil de l'Europe, vient de recaler le Royaume-Uni sur son projet d'envoyer des migrants au Rwanda.
Est-ce que ça va changer la politique de Boris Johnson ? Je ne crois pas.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le sujet Emmanuel Macron en attendant la suite. Je voulais vous alerter sur le sujet écriture inclusive à Clermont-Ferrand demain 24 juin. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui en parlons. Je suis triste de cela. La presse n'en parle quasiment pas. Le conseil d'administration de l'université Clermont-Auvergne devra se prononcer à propos de l'adoption d'une charte pour une communication inclusive à l'université, qui porte donc sur la modification des moyens de communication interne à l'université. On ne demande encore pas aux élèves d'écrire en écriture inclusive. Cette charte a pour projet d'imposer l'usage de l'écriture inclusive, du point médian et de la barre oblique. Et personne ne dit rien. Je vous assure, je veux dire, c'est contraire à ce qu'a demandé le gouvernement. C'est contraire à l'Académie française. Tous les gens sérieux, les intellectuels, les littéraires, etc. condamnent cela. Et vous avez un foyer d'universitaires qui veut imposer cela.
Il y a des îlots en France de
résistance
et de résistance.
Je crois que vous allez parler d'un autre sujet qui...
Moi, je suis professeur à Sciences Po, je dis mademoiselle, monsieur, je continue à dire mademoiselle.
Oh, mais c'est très mal, je vais vous dénoncer.
Je n'utiliserai jamais ils veulent me virer.
Ça ne vous met pas en colère, moi ça me met... Alors, la charte, je lis la charte. La charte incite aussi à éviter de représenter les femmes dans des positions statiques, rêveuses ou passives, et les hommes dans des attitudes concentrées, dynamiques et assurées. Éviter également de représenter des rapports de domination homme-femme. Ne pas représenter un homme qui montre une femme qui regarde. un homme debout et une femme assise, un homme au premier plan et une femme au second. C'est la charte de l'université.
Qui a écrit cette ânerie ?
Mais c'est des professeurs d'université.
Ils sont mis à plusieurs.
Mais Sandrine Rousseau dirige l'université de Lille.
Ah, c'est Sandrine Rousseau. Ah,
oui. Non, c'est pas Sandrine Rousseau. Là, c'est à Clermont-Ferrand. Le wokisme est dans l'université par ces intellectuels déclassés, parfois, disons-le. Qui sont là, qui vivent très mal la situation aujourd'hui et qui veulent exister de cette manière-là.
Le prolétariat intellectuel. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce que vous avez cité, il faut en réalité brûler toute la littérature, des femmes rêveuses. Déjà, Madame Bovary, ça va très mal. Hein. Supprimons
Madame Récamier sur son canapé, là.
Non, mais c'est incroyable.
Mais ce que je trouve...
Oui, c'est juste
ce que je trouve incroyable, c'est que personne ne réagit. Le gouvernement, Madame Vidal, qui était l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, elle ne disait rien.
Oui, mais Pascal, je crois que si on voulait résister, et on devrait le faire, on n'en pourrait plus. Le pouvoir serait épuisé.
Ah bah alors ça, c'est... Ça sert vraiment à quelque chose. Mais la langue, c'est pas rien quand même. Vous me sidérez. Non. Vous-même, c'est soumission, quoi. Vous acceptez tout.
Non, mais c'est le contraire. Mais c'est fondamental, Pascal.
Alors, si c'est fondamental, battez-vous.
Mais non, mais parce que tous les jours, on cède. Et donc, il faudrait un pouvoir, mais inimaginable au sens
donc
propre.
Donc, on peut rien faire.
Mais il faudrait nommer quelqu'un...
Il n'y a pas de sanction, mais on ne peut pas les sanctionner.
Et là, l'Académie française a résisté elle-même. C'est un Premier ministre, qui n'était pas un grand littéraire, qui était Lionel Jospin, qui a dit, il faut dire, Madame la procureure. Ou madame, c'est ridicule, c'est madame le procureur, c'est une fonction. Et d'ailleurs, moi, je peux dire, vous êtes la sentinelle de l'Occident, monsieur Burga. Je ne vais pas dire, vous êtes le sentinelle. Voilà. Bon, eh bien, on a cédé, mais malheureusement, l'Académie française a cédé également, alors qu'elle aurait dû tenir.
Oui, mais parce que je ne me suis pas endormi, je dis simplement.
Sur madame, madame la procureure.
Ah oui, madame la procureure, madame la première ministre.
Monsieur Burga s'est réveillé.
Pardon.
Je me réveille pour vous dire simplement que, comme d'habitude, ça... C'est révoltant, bien entendu, c'est inquiétant même, mais ça ne représente... pas l'impression que ça accroche les jeunes.
Et vous êtes
J'ai l'impression qu'il y a des chapelles qui fonctionnent à l'intérieur de l'université, chez un certain nombre de professeurs, chez un certain nombre de dirigeants.
C'est juste des professeurs, c'est l'université française.
Ça ne fonctionne pas.
Mais les minorités agissantes, vous devez connaître ça.
Pour vous énerver un peu plus, je vais vous dire que c'est le même raisonnement que je porte sur le voile.
Bon, on va pas parler du voile, mais...
Alors, rendez-vous.
Je peux lui répondre
Non, il est 20h45. Jeanne Cancard.
Jeanne va lui répondre.
Un chauffeur a été jugé aujourd'hui pour l'agression d'un cycliste. Il avait renversé délibérément, puis passé à tabac. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire et une obligation de soins. En France, toujours gare aux orages et à la grêle, 26 départements sont placés en vigilance orange. Alors que l'épisode de canicule exceptionnel s'est terminé hier soir, une partie du territoire reste menacée d'orages violents. Si vous tentez de réserver un train pour cet été, ça ne vous échappera pas. Les places sont prises d'assaut dans les TGV. Résultat, beaucoup de trains affichent déjà complet. La SNCF a donc décidé de mettre en vente 500 000 places supplémentaires afin de répondre à la demande record de cette année.
La soumission au wokisme continue à l'université, bien évidemment. Mais enfin, bon, ça n'a pas l'air
de... ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, à part le dénoncer.
Et sanctionner.
Et quand on voit que dans la société...
Sanctionner.
Ah non, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais le gouvernement.
Ah oui, ça
le gouvernement, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé très clairement. Vous écrivez « révoquer ». C'est simple.
Oui.
Vous détruisez la langue française. C'est un rapport de force. Une fois, deux fois, trois fois. Révoquer.
Je suis d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et nous, on en parle.
Je ne sais pas ce que son successeur va faire, mais Jean-Michel Blanquer l'avait dénoncé à plusieurs reprises.
Oui, mais sans sanction.
Ne dites pas qu'il ne se passe rien.
Rien.
Cause toujours, tu m'intéresses.
Mais Pascal...
Mais Monsieur Pape Ndiaye, il trouve ça sûrement très bien.
Attendez.
Je ne vais pas attendre longtemps parce que je ne suis pas sûr qu'il reste.
Vous imaginez si quelqu'un mettait en œuvre ce que vous souhaitez et ce serait bien... Alors, les réactions médiatiques.
Et alors ?
Ça durerait 6 mois.
Oui.
Et puis je vais vous dire, la majorité des gens qui nous écoutent, ils sont contre.
D'accord.
Et ils trouvent ça scandaleux de détruire la langue. Le problème, c'est que vous êtes sous le joug des minorités actives dans tous les domaines en France depuis 30 ans.
J'explique les raisons pourquoi on ne fait rien.
Battre.
Oui,
ou alors, si vous ne croyez pas en votre langue française, ne vous battez pas.
Mais bien sûr, non, mais.
Menez le combat idéologique.
Il y a mille domaines où il faudrait se battre.
Pas mille, honnêtement. Il n'y en a pas mille, mais il y en a quelques-uns.
Il y en a beaucoup.
Et la langue, ça me paraît...
La destruction de la langue française qui a commencé avec la féminisation des titres. Ouais. Parce que c'est ridicule, je dis qu'il faut... Moi, je ne suis pas... Je suis la sentinelle de l'Occident, je ne suis pas le sentinelle. Il faut garder... Bien sûr, mais bon.
Sylvie Germain.
Jean-Louis, juste pour lui répondre d'un mot. Non, mais parce que vous dites que c'est des petites minorités. D'abord... Elles sont de moins en moins
petites.
D'abord, elles sont de moins en moins petites, mais surtout, vous le savez très bien que l'histoire est souvent faite par des minorités déterminées et agissantes. Et si on se laisse faire, notre langue va être détruite.
Est-ce
d'ailleurs, elle l'est.
Est-ce que vous voulez voir le sujet de Sylvie Germain qui m'a beaucoup intéressée? Elle est menacée sur Internet. C'est un extrait du roman Jour de colère de l'écrivain français. Au bac de français, Sylvie Germain, depuis une semaine, des milliers d'élèves de première se déchaînent sur les réseaux sociaux, sur l'extrait en question. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvaient que c'était trop dur. Donc voyez le sujet, je trouve ça aussi fascinant ou sidérant. Sibylle Delettre.
C'est un extrait d'une vingtaine de lignes qui a été proposé aux élèves de première pour l'épreuve du bac français. Dans ce texte, extrait de son roman « Jour de colère », l'autrice, Sylvie Germain, y décrit 9 frères qui vivent dans la forêt.
Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient fait à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté.
Certains lycéens ont jugé ce texte trop compliqué et se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement de haine, l'écrivaine s'est dite inquiète du symptôme que cela révèle dans une interview au Figaro.
C'est grave que les élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion, autant que d'imagination et également si peu de curiosité.
Sylvie Germain n'est pas la première à déclencher la colère des lycéens.
Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure, hein, lui aussi. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet, qui avait le malheur de parler du Tigre et de l'Euphrate, et où certains élèves n'avaient pas compris que le Tigre était un fleuve.
Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a éclaté.
L'autrice. Non mais moi,
oui,
non mais franchement,
c'est
insupportable les fonctions. Moi, je dirais Madame le Premier ministre. J'en ai ras-le-bol d'entendre tout le monde dire Madame la Première ministre.
C'est très laid.
Et l'autrice, en plus, c'est moche.
L'auteur.
C'est moche l'auteur.
L'autrice, parce que oui, vous avez la jeune femme. Vous savez, c'est le mot de Sartre que j'ai cité 12 millions de fois. Un homme, c'est son époque. Et la jeune femme qui a écrit le texte que vous venez d'entendre, qui est jeune journaliste, pour elle, l'autrice, c'est entrée dans les mœurs. Et elle ne voit pas les choses comme vous.
Réponse à Jean-Louis Burgat.
Il y a des féminisations moins grotesques que d'autres.
L'autrice, c'est pas ce qu'il y a de
désolé, il y a une féminisation qui est nécessaire d'un certain nombre de mots.
Mais ça, c'est pas le sujet, là.
De fonctions.
Mais, non, mais le sujet, c'était trop dur.
Mais effectivement, j'étais choqué.
J'ai une petite fille qui a fait le commentaire sur Sylvie Germain. Heureusement, elle n'a pas... Elle n'a pas été sur les réseaux sociaux.
Alors, il y a un petit exemple qui m'a aussi choqué, c'est que pendant le passage du bac la semaine dernière, on a eu une canicule et le recteur d'une des académies a dit que les correcteurs seraient un peu moins sévères sur les notes à cause de la chaleur. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit...
Non mais justement, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit là... Il y a deux choses. Il y a, comme l'a dit Sylvie Germain, la haine de la langue, la haine de l'effort. Et il y a le fait, la réaction immédiate qui est « je vais te violer, je t'insulte, j'ai vu les messages, c'est vraiment horrible ». Mais tout ça, le plus horrible, c'est que c'est le produit d'une espèce de fausse bienveillance. Et là, qui a été vraiment poussée par la gauche, mais en réalité endossée par tout le monde. Il ne faut pas leur rendre les choses trop difficiles à ces pauvres petits. Et en réalité, je pense que le plus important dans ce qu'elle dit, c'est haine de l'effort. Parce qu'en plus, quand ils ont donné le sujet, vous savez qu'il y avait 2 notes. Ils expliquaient, moi j'ai lu le texte, franchement il n'est pas difficile, mais ils expliquaient 2 mots, venelle et séculaire.
Oui, mais alors venelle, ce n'est pas un mot
admettons,
forcément fréquent. Et séculaire, je peux comprendre aussi qu'auprès de gens de 15 ans, quoi, 17 ans, ce mot...
Qui n'a pas fait de latin.
Voilà, tout le monde ne connaît pas forcément ce mot-là. Je ne peux pas vous dire autre chose.
Vous n'ayez pas rencontré séculaire à 17 ans en bac général, pardon, mais...
Je crains qu'on explique tout.
Mais ludique, par exemple, ludique, qui est un mot qui me paraît infiniment plus simple que séculaire, ludique... semble, ludique n'était pas compris l'autre jour au bac non plus de philo, ce qui fait que le jeu est-il ludique.
C'est la catastrophe d'avoir dit qu'il fallait qu'il y ait 80% d'une génération.
Et il y en a 95%.
C'est ridicule.
Zidane.
Ce qui est marrant, c'est qu'on demande aux profs de faire des choses ludiques toute la journée. On leur dit, apprenez-leur de façon ludique. C'est bon. Vrai.
Zidane. Zidane, 50 ans, je disais tout à l'heure, et on va finir avec Zinedine Zidane. Il a 50 ans. Et alors, ce qui est intéressant chez Zidane, c'est évidemment le joueur, mais il est populaire pas seulement parce que c'est un joueur d'exception. Il est populaire parce qu'il est sympathique. Il est populaire parce qu'il a une forme d'humilité. Il est populaire parce qu'il ne donne jamais son avis sur des sujets qui fâchent.
Absolument.
Il a une vraie délicatesse sur ce point de vue-là, de ce point de vue-là. Et il sait combien sa parole pourrait être instrumentalisée, comment elle pourrait être même déformée. Donc il dit...
Il est faillible aussi.
Il dit peu de choses.
Comme nous tous, il a fait des grosses erreurs. Il a fait une grosse erreur, le coup de boule.
Ah non, non.
Oui, oui. Il est humain, il est humain.
Oui, mais c'est surtout un joueur.
Mais ça, on n'en doutait pas.
Quelle est la différence entre Bernard-Henri Lévy et Zidane?
Il y en a beaucoup de différences.
Qui parle peu.
Est-ce qu'on peut dire que, du point de vue de sa discrétion, ce serait l'anti-Benzema?
Ah, et encore Benzema.
Je sais que vous adorez Benzema.
Non, Benzema, il est un garçon discret.
Il est assez discret, mais Benzema.
C'est un garçon discret, Benzema. Oui. C'est pas quelqu'un. Vous le voyez très peu hein, dans les médias, Benzema.
Mais vous ne nous dites pas la chose la plus importante, Pascal Praud. Quel est votre avis? Est-ce que faut-il qu'il soit le sélectionneur de l'équipe de France ou non? Je vous pose la question.
Aujourd'hui, c'est Didier Deschamps.
Oui. Est-ce qu'il faut qu'il le soit à l'avenir?
Si Didier Deschamps gagne, non. Si Didier Deschamps gagne la Coupe du Monde, pourquoi voulez-vous remplacer Didier Deschamps?
On ne remplace pas une équipe qui gagne, d'accord, c'est clair.
Bien sûr. Et puis, Deschamps, c'est deux très bons, j'imagine, profils. Mais c'est vrai que moi, je suis un fan absolu de Didier Deschamps. Je trouve qu'il a prouvé beaucoup de choses.
À cause de Nantes.
Non, à cause de lui. Je veux dire,
c'est. Moi, je suis pas un spécialiste du foot, mais j'admire Zidane parce qu'il a fait au niveau de sa communication un parcours sans faute.
C'est vrai.
Il parle de temps en temps. Zidane.
La parole rare. Ouais, lui, il la respecte.
Il dit, mais il fait attention à ce qu'il dit.
C'est toujours sensé.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.